François Copé, L'enfant perdu. Ce matin-là, qui était la veille de Noël, deux événements d'importance eurent lieu simultanément. Le soleil se leva, et M. Jean-Baptiste Godefroy aussi. Sans doute le soleil au cœur de l'hiver après 15 jours de brume et de ciel gris, quand par bonheur le vent passe au nord-est et ramène le temps sec et clair, le soleil, inondant tout à coup de lumière le Paris matinal, est un vieux camarade que chacun revoit avec plaisir. Il est d'ailleurs un personnage considérable. Jadis, il a été Dieu, il s'est appelé Osiris, Apollon, est-ce que je sais ? Il n'y a pas 2 siècles qu'il riait en France sous le nom de Louis XIV. Même M. Jean-Baptiste Godefroy, financier richissime, directeur du comptoir général de crédit, administrateur de plusieurs grandes compagnies, député et membre du conseil général de l'Eure, officier de la Légion d'honneur, etc., etc., n'était pas non plus un homme à dédaigner. Et puis l'opinion que le soleil peut avoir sur son propre compte n'est certainement plus flatteuse que celle que M. Jean-Baptiste Godefroy avait de lui-même. Nous sommes donc autorisés à dire que, le matin en question, vers 8h moins le quart, le soleil et M. Jean-Baptiste Godefroy se levèrent. Par exemple, le réveil de ces puissants seigneurs fut tout à fait différent. Le bon vieux soleil, lui, commença par faire une foule de choses charmantes. Comme le Grésil, pendant la nuit, avait confit dans du sucre en poudre les platanes dépouillées du boulevard Malesherbes, où est situé l'hôtel Godefroy, ce magicien de soleil s'amusa d'abord à les transformer en gigantesques bouquets de corail rose, et, tout en accomplissant ce délicieux tour de fantasmagorie, il répandit avec la plus impartiale bienveillance ses rayons sans chaleur, mais joyeux, sur tous les humbles passants que la nécessité de gagner leur vie forçait à être dehors de si bonne heure. Il eut le même sourire pour le petit employé en paletot trop mince se hâtant vers son bureau, pour la grisette frissonnant sous sa confection à bon marché, pour l'ouvrier portant la moitié d'un pain rond sous son bras, pour le conducteur de tramway faisant sonner son compteur, pour le marchand de marrons en train de griller sa première poêlée. Enfin, ce brave homme de soleil fit plaisir à tout le monde. M. Jean-Baptiste Godefroy, au contraire, eut un réveil assez maussade. Il avait assisté la veille, chez le ministre de l'Agriculture, à un dîner encombré de truffes depuis le relevé du potage jusqu'à la salade, et son estomac de 47 ans éprouvait la brûlure morse du pyrocis. Aussi, à la façon dont M. Godefroy donna son premier coup de sonnette, Charles, le valet de chambre, tout en prenant de l'eau chaude pour la barbe du patron, dit à la fille de cuisine « Allons bon, le singe est encore d'une humeur massacrante ce matin. Oh, ma pauvre Gertrude, nous allons avoir une sale journée. » Puis, marchant sur la pointe du pied, les yeux modestement baissés, il entra dans la chambre à coucher, ouvrit les rideaux, alluma le feu et prépara tout ce qu'il fallait pour la toilette avec les façons discrètes et les gestes respectueux d'un sacristain déposant les objets du culte sur l'autel avant la messe de monsieur le curé. « Quel temps ce matin ?» demanda d'une voix brève M. Godefroy en boutonnant son veston de molleton gris sur un abdomen un peu trop majestueux déjà. « Très froid, monsieur, » répondit Charles. « À 6 heures, le thermomètre marquait 7 degrés au-dessous de zéro. Mais monsieur voit que le ciel s'est éclairci et je crois que nous aurons une belle matinée. » Tout en repassant son rasoir, M. Godefroy s'approcha de la fenêtre, écarta l'un des petits rideaux, vit le boulevard baigné de lumière et fit une légère grimace qui ressemblait à un sourire. Mon Dieu, oui, on a beau être plein de morgue et de tenue et savoir parfaitement qu'il est du plus mauvais genre de manifester quoi que ce soit devant les domestiques, l'apparition de ce gueusard de soleil en plein mois de décembre donne une sensation si agréable qu'il n'y a guère moyen de la dissimuler. Monsieur Godefroy daigna donc sourire. Si quelqu'un lui avait dit alors que cette satisfaction instinctive lui était commune avec l'apprenti typographe en bonnet de papier qui faisait une glissade sur le ruisseau gelé d'en face, monsieur Godefroy eût été profondément choqué. C'était ainsi pourtant. Et pendant une minute, cet homme écrasé d'affaires, ce gros bonnet du monde politique et financier, fit cet enfantillage de regarder les passants et les voitures qui filaient joyeusement dans la brume dorée. Mais, oh, rassurez-vous, cela ne dura qu'une minute. Sourire à un rayon de soleil, c'est bon pour des gens inoccupés, pas sérieux. C'est bon pour les femmes, les enfants, les poètes, la canaille. Monsieur Godefroy avait d'autres chats à fouetter, et précisément pour cette journée qui commençait, son programme était très chargé. De 8h30 à 10h, il avait rendez-vous dans son cabinet avec un certain nombre de messieurs très agités, tous habillés et rasés comme lui dès l'aurore et comme lui sans fraîcheur d'âme, qui devaient venir lui parler de toutes sortes d'affaires, ayant tous le même but, gagner de l'argent. Après déjeuner, il ne fallait pas s'attarder au petit verre. Monsieur Godefroy était obligé de sauter dans son coupé et de courir à la bourse pour y échanger quelques paroles avec d'autres messieurs qui s'étaient aussi levés de bonne heure et qui n'avaient pas non plus de petites fleurs bleues dans l'imagination. Et cela toujours pour le même motif, gagner de l'argent. De là, sans perdre un instant, Monsieur Godefroy allait présider devant une table verte encombrée d'encriers syphoïdes un nouveau groupe de compagnons dépourvus de tendresse et s'entretenir avec eux de divers moyens de gagner de l'argent. Après quoi, il devait paraître comme député dans trois ou quatre commissions et sous-commissions, toujours avec table verte et encrier syphoïde, où il rejoindrait d'autres personnages peu sentimentaux, tous incapables aussi, je vous prie de le croire, de négliger la moindre occasion de gagner de l'argent, mais qui avait pourtant la bonté de sacrifier quelques précieuses heures de l'après-midi pour assurer par-dessus le marché la gloire et le bonheur de la France. Après s'être vivement rasé, en épargnant toutefois le collier de barbe poivre et celle qui lui donnait un air de famille avec les Auvergnats et les singes de la grande espèce, monsieur Godefroy revêtit un complet du matin dont la coupe élégante et un peu jeunette prouvait que ce veuf cinglant vers la cinquantaine n'avait pas absolument renoncé à plaire. Puis il descendit dans son cabinet, où commença le défilé des hommes peu tendres et sans rêverie, uniquement préoccupés d'augmenter leur bien-aimé capital. Ces messieurs parlèrent de plusieurs entreprises en projet, également considérables, notamment d'une nouvelle ligne de chemin de fer à lancer à travers un désert sauvage, d'une usine monstre à fonder aux environs de Paris, et d'une mine de n'importe quoi à exploiter dans je ne sais plus quelle république de l'Amérique du Sud. Bien entendu, on n'agita pas un seul instant la question de savoir si le futur railway aurait à transporter un grand nombre de voyageurs et une grande quantité de marchandises, si l'usine fabriquerait du sucre ou des bonnets de coton, si la mine produirait de l'or vierge ou du cuivre de deuxième qualité. Non. Les dialogues de M. Godefroy et de ses visiteurs matinaux roulèrent exclusivement sur le bénéfice plus ou moins gros à réaliser dans les 8 jours qui suivraient l'émission, en spéculant sur les actions de ces diverses affaires, actions très probablement destinées du reste, et dans un bref délai, à n'avoir plus d'autre valeur que le poids du papier et le mérite de la vignette. Ces conversations, nourries de chiffres, durèrent jusqu'à 10 heures précises, et M. le directeur du comptoir général de crédit, qui était honnête homme pourtant, autant qu'on peut l'être dans les affaires, reconduisit-je sur le palier, avec les plus grands égards, son dernier visiteur, un vieux filou cousu d'or, qui par un hasard assez fréquent jouissait de la considération générale, au lieu d'être logé à Poissy ou à Gaillon aux frais de l'État pendant un laps de temps fixé par les tribunaux, et de s'y livrer à une besogne honorable et hygiénique, telle que la confection des chaussons de lisière ou de la brosserie à bon marché. Puis, monsieur le directeur consigna sa porte impitoyablement, il fallait être à la bourse à 11 heures, et passa dans la salle à manger. Elle était somptueuse. On aurait pu constituer le trésor d'une cathédrale avec les massives argenteries qui encombraient bahuts et dressoirs. Néanmoins, malgré l'absorption d'une dose copieuse de bicarbonate de soude, le pyrosis de M. Godefroy était à peine calmé et le financier ne s'était commandé qu'un déjeuner de dyspeptique. Au milieu de ce luxe de table, devant ce décor qui célébrait la bombance et sous l'œil impassible d'un maître d'hôtel à 200 louis de gage, qui s'en faisait deux fois autant par la vertu de l'anse du panier, M. Godefroy le mangea donc d'un air assez piteux que 2 œufs à la coque et la noix d'une côtelette, et encore, l'un des œufs sentait la paille. L'homme, plein d'or, chipotait son dessert. Oh, presque rien, un peu de roquefort, à peine pour 2 ou 3 sous, je vous assure. Lorsqu'une porte s'ouvrit, et soudain, gracieux et mignon, bien qu'un peu chétif dans son costume de velours bleu et trop pâle sous son énorme feutre à plumes blanches, le fils de monsieur le directeur, le jeune Raoul, âgé de 4 ans, entra dans la salle à manger, conduit par son Allemande. Cette apparition se produisait chaque jour à 11 heures moins le quart exactement, lorsque le coupé attelé pour la bourse attendait devant le perron, et que l'alezan brûlé, vendu à M. Godefroy par les soins de son cocher, 1 000 francs de plus qu'il ne valait, grattait d'un sabot impatient le dallage de la cour. L'illustre brasseur d'argent s'occupait de son fils de 10h45 à 11h. Pas plus, pas moins, il n'avait qu'un quart d'heure juste à consacrer aux sentiments paternels. Non qu'il n'aimât pas son fils, grand Dieu, non, il l'adorait à sa façon. Mais que voulez-vous, les affaires. À 42 ans, plus que mûr et passablement fripé, il s'était cru très amoureux, par pur snobisme, de la fille d'un de ses camarades de cercle, le marquis de Neufontaine, vieux châtain, roux, joueur comme les cartes, qui, sans la compassion vaniteuse de M. Godefroy, eût été plus d'une fois affiché au club. Ce gentilhomme effondré, mais toujours très chic, et qui venait encore de lancer une casquette pour bain de mer, fut trop heureux de devenir le beau-père d'un homme qui paierait ses dettes et livra sans scrupule au banquier fatigué une ingénue de 17 ans, d'une beauté suave et frêle, sortant d'un couvent de province et n'ayant pour dot que son trousseau de pensionnaire et qu'un trésor de préjugés aristocratiques et d'illusions romanesques. M. Godefroy, fils d'un avoué grippe-sous des Andelys, était resté peuple, même fort vulgaire, malgré son fabuleux fabancement dans la hiérarchie sociale. Il blessa tout de suite sa jeune femme dans toutes ses délicatesses, et les choses allaient mal tourner quand la pauvre enfant fut emportée à sa première couche. Presque élégiaque lorsqu'il parlait de sa défunte épouse, avec laquelle il eut sans doute divorcé si elle avait vécu 6 mois de plus, Monsieur Godefroy aimait son petit Raoul pour plusieurs raisons. D'abord à titre de fils unique, puis comme produit rare et distingué d'un Godefroy et d'une Neuffontaine, enfin et surtout par le respect qu'aspirait à cet homme d'argent l'héritier d'une fortune de plusieurs millions. Le bébé fit donc ses premières danses sur un hochet d'or et fut élevé comme un dauphin. Seulement son père, accablé de besogne, débordé d'occupation, ne pouvait lui consacrer que 15 minutes par jour, comme aujourd'hui au moment du Roquefort, et l'abandonnait au domestique. Bonjour Raoul, bonjour papa, et monsieur le directeur du comptoir général de crédit, ayant jeté sa serviette, installa sur sa cuisse gauche le jeune Raoul, prit dans sa grosse patte la petite main de l'enfant et la baisa plusieurs fois, oubliant, ma parole d'honneur, la hausse de 25 centimes sur le 3%, les tables couleurs de pâturage et les encriers volumineux devant lesquels il devait traiter tout à l'heure de si grosses questions d'intérêt, et même son vote de l'après-midi pour ou contre le ministère, selon qu'il obtiendrait ou non, en faveur de son bourg pourri, une place de sous-préfet, 2 de percepteur, 3 de garde d'enchepte, 4 bureaux de tabac, plus une pension pour le cousin issu de Germain d'une victime du 2 décembre. Ben, et le petit Noël, il mettra peut-être quelque chose dans mon soulier ? Demanda tout à coup Raoul dans son sabir enfantin. Le père, après un « Oui, si toi étais sage », fort surprenant chez ce député libre-penseur, qui à la chambre appuyait d'un énergique « très bien » toutes les propositions anticléricales, prit note dans le meilleur coin de sa mémoire qu'il aurait à acheter des joujoux. Puis, s'adressant à la gouvernante, « Vous êtes toujours contente de Raoul, mademoiselle Bertha ?» L'Allemande, qui se faisait passer pour autrichienne, cela va sans dire, mais qui était en réalité la fille d'un pasteur poméranien affligé de 14 enfants, devint rouge comme une tomate sous ses cheveux blonds albinos, comme si la question toute simple qu'on lui adressait eût été de la pire indécence, et après avoir donné cette preuve de respect intimidé, répondit par un petit rire imbécile, qui parut satisfaire pleinement la curiosité de M. Godefroy sur la conduite de son fils. « Il fait beau aujourd'hui, » reprit le financier, « mais froid. Si vous menez Raoul au parc Monceau, mademoiselle, vous aurez soin, n'est-ce pas, de le bien couvrir. » La Fraulein, par un second accès de rire idiot, ayant rassuré M. Godefroy sur ce point essentiel, il embrassa une dernière fois le bébé, se leva de table, 11 heures sonnait au cartel, et s'élança vers le vestibule où Charles, le valet de chambre, lui enfila sa pelisse et referma sur lui la portière du coupé. Après quoi, ce serviteur fidèle courut immédiatement au petit café de la rue de Biroménil où il avait rendez-vous avec le groom de la baronne d'en face pour une partie de billard, en 30 liées, avec défense de queuter, bien entendu. Grâce au baie brun payé 1000 francs de trop à la suite d'un déjeuner d'escargot offert par le maquignon au cocher de M. Godefroy, grâce à cet animal d'un prix excessif, mais qui filait bien tout de même, M. le directeur du comptoir général de crédit put accomplir sans aucun retard sa tournée d'affaires. Il parut à la bourse, siégea devant plusieurs encriers monumentaux, et même vers 5 heures moins le quart, il rassura la France et l'Europe inquiètes des bruits de crise en votant pour le ministère. Car il avait obtenu les faveurs sollicitées, y compris la pension pour celui de ses électeurs, dont l'oncle à la mode de Bretagne avait été révoqué d'un emploi de surnuméraire non rétribué à l'époque du coup d'État. Attendri, sans doute, par la satisfaction d'avoir contribué à cet acte de justice tardive. Monsieur de Godefroy se souvint alors de ce que lui avait dit Raoul au sujet des présents du petit Noël, et jeta à son cocher l'adresse d'un grand marchand de jouets. Là, il acheta et fit transporter dans sa voiture un cheval fantastique en bois creux, monté sur roulette, avec une manivelle dans chaque oreille, une boîte de soldats de plomb aussi semblables les uns aux autres que les grenadiers de ces régiments russes du temps de Paul Ier, qui tous avaient les cheveux noirs et le nez retroussé, 20 autres joujoux éclatants et magnifiques. Puis, en rentrant chez lui, doucement bercé sur les coussins de son coupé bien suspendu, l'homme riche, qui après tout avait des entrailles de père, se mit à penser à son fils avec orgueil. L'enfant grandirait, recevrait l'éducation d'un prince, en serait un parbleu, puisque, grâce aux conquêtes de 89, il n'y avait plus d'aristocratie que celle de l'argent, et que Raoul aurait un jour 20, 25, qui sait, 30 millions de capital. Si son père, petit provincial, fils d'un méchant noircisseur de papier timbré, son père qui avait dîné à 20 sous jadis au quartier latin, et se rendait bien compte chaque soir, en mettant sa cravate blanche, qu'il avait l'air d'un marié du samedi, si ce père, malgré sa tâche originelle, avait pu accumuler une énorme fortune, devenir fraction de roi sous la République parlementaire et obtenir en mariage une demoiselle dont un ancêtre était mort à Marignan, à quoi donc ne pouvait pas prétendre Raoul, dès l'enfance beau comme un gentilhomme, Raoul au sang affiné par l'atavisme maternel, Raoul de qui l'intelligence serait cultivée comme une fleur rare, qui apprenait déjà les langues étrangères dès le berceau, qui l'an prochain aurait le derrière sur une selle de poney, Raoul, qui serait un jour autorisé à joindre à son nom celui de sa mère, et s'appellerait ainsi Godefroy de Neuffontaine, Godefroy devenant le prénom, et quel prénom, royal, moyenâgeux, sentant à plein nez la croisade. Avec des millions, quel avenir, quelle carrière! Et le démocrate, oh, il y en a plus d'un comme celui-là, n'en doutez pas, imaginez naïvement la monarchie restaurée. En France, tout arrive. Voyez son Raoul, non, son Godefroy de Neuffontaine, marié au faubourg, bien vu au château, puis, qui sait, tout près du trône, avec une clé de chambellan dans le dos et un blason tout battant neuf sur son argenterie et sur les panneaux de son carrosse. Oh, sottise, sottise! Ainsi rêvait le parvenu gorgé d'or, dans sa voiture qu'encombraient tous ses joujoux achetés pour la Noël, sans se rappeler, hélas, que c'était ce soir-là la fête d'un très pauvre petit enfant, fils d'un couple vagabond, né dans une étable où l'on avait logé ses parents par charité. Mais le cocher a crié « Pote, s'il vous plaît !» On rentre à l'hôtel, et franchissant les degrés du perron, M. Godefroy se dit qu'il n'a que le temps de faire sa toilette du soir, lorsque, dans le vestibule, il voit tous ses domestiques en cercle autour de lui, l'air consterné, et dans un coin, affalé sur une banquette, l'Allemande, qui pousse un cri en l'apercevant et cache aussitôt dans ses deux mains son visage bouffi de larmes. Monsieur Godefroy a le pressentiment d'un malheur. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'y a-t-il? Charles, le valet de chambre, un drôle de la pire espèce pourtant, regarde son maître avec des yeux pleins de pitié et, bégayant et troublé, « Monsieur Raoul, mon fils, Perdue, monsieur, cette stupide Allemande, perdue depuis 4 heures de l'après-midi. Le père recule de 2 pas en chancelant comme un soldat frappé d'une balle. Et l'Allemande se jette à ses pieds, hurlant d'une voix de folle, « Pardon, pardon !» Et les laquais parlent tous à la fois. Bertha n'était pas allée au parc Monceau. C'est là-bas, sur les fortifications, qu'elle a laissé se perdre le petit. On a cherché partout, monsieur le directeur. On est allé au comptoir, à la chambre. Il venait de partir. Figurez-vous que l'Allemande rejoignait tous les jours son amoureux au-delà du rempart, près de la porte d'Adière. Quelle horreur, un quartier plein de bohémiens, de saltimbanques. Qui sait si on n'a pas volé l'enfant ? Ah oui, le commissaire était déjà prévenu. Mais conçoit-on cela, cette sainte Nitouche, des rendez-vous avec un amant, un homme de son pays, un espion prussien, pour sûr. Son fils perdu. Monsieur Godefroy entend l'orage de l'apoplexie ronder dans ses oreilles. Il bondit sur l'Allemande, l'empoigne par le bras, la secoue avec fureur. Mais où l'avez-vous perdu de vue, misérable ? Dites la vérité ou je vous écrase. Où ça ? Où ça ? Mais la malheureuse fille ne sait que pleurer et crier grâce. Voyons, du calme. Son fils à lui, perdu, volé. C'est pas possible. On va le lui retrouver, le lui rendre tout de suite. Il peut jeter l'or à poignée, mettre toute la police en l'air. Bah, pas un instant à perdre. Charles, qu'on ne dételle pas. Vous autres, gardez-moi cette coquine, je vais à la préfecture. Et M. Godefroy, le cœur battant à se rompre, les cheveux soulevés d'épouvante, s'élance de nouveau dans son coupé qui repart d'un trot enragé. Quelle ironie ! La voiture est pleine de jouets étincelants où chaque bec de gaz, chaque boutique illuminée allume au passage 100 paillettes de feu. C'est aujourd'hui la fête des enfants, ne l'oublions pas, la fête du nouveau-né divin que sont venus adorer les mages et les bergers conduits par une étoile. Mon Raoul, mon fils, mais où est mon fils ? Se répète le père, crispé par l'angoisse, en déchirant ses ongles au cuir des coussins. À quoi lui servent maintenant ses titres, ses honneurs, ses millions ? À l'homme riche, au gros personnage. Il n'a plus qu'une idée, fixée comme un clou de feu, là, entre ses 2 sourcils, dans son cerveau douloureux et brûlant. Mon enfant, où est mon enfant ? Voici la préfecture de police. Mais il n'y a plus personne, les bureaux sont désertés depuis longtemps. Je suis monsieur Godefroy, député de l'Eure. Mon fils est perdu dans Paris, un enfant de 4 ans. Je veux absolument voir monsieur le préfet. Et un louis dans la main du concierge. Le bonhomme, un vétéran à moustache grise, moins pour la pièce d'or que par compassion pour ce pauvre père, le conduit aux appartements privés du préfet, l'aide à forcer les consignes. Enfin, M. Godefroy est introduit devant l'homme en qui repose à présent toute son espérance. Un beau fonctionnaire en tenue de soirée, il allait sortir. L'air réservé, un peu prétentieux, le monocle à l'œil. M. Godefroy, les jambes cassées par l'émotion, tombe dans un fauteuil, fond en larmes et raconte son malheur en phrases bredouillées et coupées de sanglots. Le préfet, oh, il est père de famille lui aussi, a le cœur tout remué. Mais, par profession, il dissimule son excès de sensibilité et se donne de l'importance. Et vous dites, monsieur le député, que l'enfant a dû se perdre vers 4 heures. Oui, monsieur le préfet. À la nuit tombante, oh diable! Mais il n'est pas avancé pour son âge. Il parle mal, ignore son adresse, ne sait pas prononcer son nom de famille. Oui, hélas, oui. Du côté de la porte d'Asnières, quartier suspect. Mais remettez-vous, nous avons là un commissaire de police très intelligent. Je vais téléphoner. L'infortuné père reste seul pendant 5 minutes. Quelle atroce migraine, quel battement de cœur fou. Puis brusquement, le préfet reparaît, le sourire aux lèvres, un contentement dans le regard. Retrouvé ! Oh, le cri de joie furieuse de M. Godefroy. Comme il se jette sur les mains du préfet, les serre à les broyer. Il faut convenir, monsieur le député, que nous avons de la chance. Un petit blond, n'est-ce pas, un peu pâle, costume de velours bleu, chapeau de feutre à plumes blanches. Oui, parfaitement. Oh, c'est lui, c'est mon petit Raoul. Eh bien, il est chez un pauvre diable qui loge de ce côté-là et qui est venu tout à l'heure faire sa déclaration au commissariat. Voici l'adresse par écrit. Pierron, rue des Cailloux, à Levallois-Perret. Oh, avec une bonne voiture, vous pourrez revoir votre fils avant 1 heure. Par exemple, ajoute le fonctionnaire, vous n'allez pas retrouver votre enfant dans un milieu bien aristocratique, dans la haute, comme disent nos agents. L'homme qui l'a recueilli est tout simplement un marchand des 4 saisons. Mais qu'importe, n'est-ce pas? Oh oui, qu'importe. Monsieur de Godefroy remercie le préfet avec effusion, descend l'escalier 4 à 4, remonte en coupé, et dans ce moment, je vous en réponds, si le marchand des 4 saisons était là, il lui sauterait au cou. Oui, monsieur Godefroy, directeur du comptoir général de crédit, député, officier de la Légion d'honneur, etc., etc., accéléra, colorait ce plébéien. Mais dites-moi donc, est-ce que par hasard il y aurait autre chose dans ce Richard que la frénésie de l'or et les vanités? À partir de cette minute, il reconnaît seulement à quel point il aime son enfant. Elle est fouette, cocher. Celui que tu emportes dans un coupé par cette froide nuit de Noël ne songe plus à entasser pour son fils million sur million, à le faire éduquer comme un fils de France, à le lancer dans le monde. Et pas de danger désormais qu'on le laisse aux mains des mercenaires. À l'avenir, M. Godefroy sera capable de négliger ses propres affaires et celles de la France, qui ne s'en portera pas plus mal, pour s'occuper un peu plus sérieusement de son petit Raoul. Il fera venir des Andelys, la sœur de son père, la vieille tante restée à moitié paysanne, dont il avait la sottise de rougir. Elle scandalisera la Valtaille par son accent normand et ses bonnets de linge, mais elle veillera sur son petit-neveu, la bonne femme. Fouette, fouette, cocher! Ce patron, toujours si pressé, que tu as conduit à tant de rendez-vous intéressés, à tant de réunions de gens cupides. Et ce soir encore, plus impatient d'arriver, il a un autre souci que de gagner de l'argent. C'est la première fois de sa vie qu'il va embrasser son enfant pour de bon. Fouette donc, cocher, plus vite, plus vite. Cependant, par la nuit froide et claire, le coupé rapide a de nouveau traversé Paris, dévoré l'interminable boulevard Malesherbes, et le rempart franchi, après les maisons monumentales et les élégants hôtels, tout de suite voici la solitude sinistre, les ruelles sombres de la banlieue. On s'arrête, Et Monsieur Godefroy, à la clarté des lanternes éclatantes de sa voiture, voit une basse et sordide baraque de plâtras, un bouge. C'est bien le numéro, c'est là que loge ce Pierrot. Aussitôt la porte s'ouvre, et un homme paraît, un grand gaillard, une tête bien française, à moustache rousse. C'est un manchot, et la manche gauche de son tricot de laine est pliée en deux sous l'aisselle. Il regarde l'élégant coupé, le bourgeois en belle pelisse, et dit gaiement, « Alors, monsieur, c'est vous qui êtes le papa ?»« Oh, n'ayez pas peur, il n'est rien arrivé au gosse. » Et s'effaçant pour permettre aux visiteurs d'entrer, il ajoute en mettant un doigt sur sa bouche, « Chut, il fait dodo !» Un bouge en vérité, à la lueur d'une petite lampe à pétrole qui éclaire très mal et qui sent très mauvais, M. Godefroy distingue une commode à laquelle manque un tiroir, quelques chaises éclopées, une table ronde où flânent un litre à moitié vide, trois verres du veau froid dans une assiette, et sur le plâtre nu de la muraille et deux chromos. L'exposition de 89 à vol d'oiseau, avec la tour Eiffel en bleu de perruquier, et le portrait du général Boulanger, jeune et joli comme un sous-lieutenant. Excusez cette dernière faiblesse chez l'habitant de ce pauvre logis. Elle a été partagée par presque toute la France. Mais le manchot a pris la lampe, et marchant sur la pointe du pied, éclaire un coin de chambre où, sur un lit assez propre, deux petits garçons sont profondément endormis. Dans le plus jeune des enfants, que l'autre enveloppe d'un bras protecteur et serre contre son épaule, M. Godefroy reconnaît son fils. « Bon, les deux mots mourraient de sommeil, » dit Pierrot, en essayant d'adoucir sa voix rude. « Comme je ne savais pas quand viendrait réclamer le petit Aristo, je leur ai donné mon pieu. Et dès qu'ils ont tapé de l'œil, oh, j'ai été faire ma déclaration au commissaire. D'ordinaire, Zidore a son petit lit dans la soupente, mais je me suis dit, ils seront mieux là. Je veillerai, voilà tout. Je serai plutôt levé demain pour aller au hall. » Mais Monsieur de Godefroy écoute à peine. Dans un trouble tout nouveau pour lui, il considère les deux enfants endormis. Ils sont dans un méchant lit de fer sur une couverture grise de caserne ou d'hôpital. Pourtant, quel groupe touchant et gracieux! Et comme Raoul, qui a gardé son joli costume de velours et qui reste blotti avec une confiance peureuse dans les bras de son camarade en blouse, semble faible et délicat. Le père, un instant privé de son fils, envie presque le timbrin et l'énergique visage du petit faubourien. « C'est votre fils ?» demande-t-il au manchot. « Non, monsieur, répond l'homme. « Je suis garçon, je me marierai sans doute pas. Rapport à mon accident, oh, bête comme tout, un camion qui m'a passé sur le bras. Mais voilà, il y a 2 ans, une voisine, une pauvre fille plantée là par un coquin avec un enfant sur les bras, est morte à la peine. Elle travaillait dans les couronnes de perles pour les cimetières. Oh, on y gagne pas sa vie à ce métier-là. Elle a élevé son petit jusqu'à l'âge de 5 ans. Et puis ça a été pour elle, à son tour, que les voisines ont acheté des couronnes. Alors, ben, je suis chargé du gosse. Oh, j'ai pas eu grand mérite. Et j'ai été bien vite récompensé. À 7 ans, c'est déjà un petit homme et il sera utile. Le dimanche et le jeudi, et aussi les autres jours après l'école, il est avec moi, tient les balances, m'aide à pousser ma charrette, ce qui n'est pas trop commode avec mon aileron. Ah, dire qu'autrefois j'étais un bon ajusteur à 10 francs par jour. Allez, Zidore est joliment débrouillard. C'est lui qui a ramassé le petit bourgeois. Comment ? S'écrie Monsieur Godefroy. C'est cet enfant. Un petit homme, que je vous dis. Bon, il sortait de la classe quand il a rencontré l'autre qui allait tout droit devant lui, sur le trottoir, en pleurant comme une fontaine. Alors il lui a parlé comme un copain, il l'a consolé, rassuré, du mieux qu'il a pu. Seulement, on ne comprend pas bien ce qu'il raconte, votre bonhomme. Des mots d'anglais, des mots d'allemand, mais pas moyen de lui tirer son nom et son adresse. Zidore me l'a amené, oh, j'étais pas loin de là, avant de mes salades. Alors les commères nous ont entourés, en coassant comme des grenouilles. Faut le mener chez le commissaire. Mais Zidore a protesté. Ça fera peur au môme, qui disait. Car il aime, comme tous les Parisiens, il n'aime pas les sergots. Et puis votre gamin ne voulait plus le quitter. Ma foi, tant pis, j'ai raté ma vente et je suis rentré ici avec les mioches. Ils ont mangé un morceau ensemble, comme une paire d'habits, et puis au dodo. Oh, sont-ils gentils tout de même, hein? C'est étrange ce qui se passe dans l'âme de M. Godefroy. Tout à l'heure, dans sa voiture, il se proposait bien, sans doute, de donner à celui qui avait recueilli son fils une belle récompense, une poignée de cet or si facilement gagné en présence des encriers siphoïdes. Mais on vient de lever devant l'homme un coin du rideau qui cache la vie des pauvres, si vaillants dans leur misère, si charitables entre eux. Le courage de cette fille mère, ce tueur de travail pour son enfant, la générosité de cet infirme adoptant un orphelin, et surtout l'intelligente bonté de ce gamin de la rue, de ce petit homme secourable pour un plus petit, le recueillant, se faisant tout de suite son ami et son frère aîné, et lui épargnant, par un instinct délicat, le grossier contact de la police. Tout cela émeut M. Godefroy et lui donne à réfléchir. Non, il ne se contentera pas d'ouvrir son portefeuille. Il veut faire mieux et plus pour Zidore et pour Pierrot le Manchot, assurer leur avenir, les suivre de sa bienveillance. Ah, si les peu sentimentaux personnages qui viennent constamment parler d'affaires à M. le directeur du comptoir général de crédit pouvaient lire en ce moment dans son esprit, ils seraient profondément étonnés. Et pourtant, M. le directeur vient de faire la meilleure affaire de sa vie. Il vient de se découvrir un cœur de brave homme. Oui, M. le directeur, vous comptez offrir une gratification à ces pauvres gens? Et voilà que ce sont eux qui vous font un magnifique cadeau, celui d'un sentiment et du plus doux, du plus noble de tous, la pitié. Car M. Godefroy songe à présent, et il s'en souviendra, qu'il y a d'autres estropiés que Pierrot, l'ancien ajusteur devenu marchand de verdure, d'autres orphelins que le petit Zidore. Bien plus, il se demande avec une inquiétude profonde si l'argent ne doit vraiment servir qu'à engendrer l'argent et si on n'a pas mieux à faire entre ses repas que de vendre en hausse des valeurs achetées en baisse et d'obtenir des places pour ses électeurs. Telle est sa rêverie devant le groupe des deux enfants qui dorment. Enfin, il se détourne, regarde en face le marchand des quatre saisons. Il est charmé par l'expression loyale de ce visage de guerrier gaulois, aux yeux clairs, aux moustaches ardentes. « Mon ami, dit M. Godefroy, vous venez de me rendre, vous et votre fils adoptif, un de ces services. Bientôt vous aurez la preuve que je ne suis pas un ingrat. Mais dès aujourd'hui, bon, je vois bien que vous n'êtes pas à l'aise et je veux vous laisser un premier souvenir. Mais de son unique main, le manchot arrête le bras de Monsieur Godefroy, qui plonge déjà sous le revers de la redingote du côté des banquenotes. Non, non, monsieur, non. N'importe qui aurait agi comme nous. N'accepterait rien, soit dit sans vous offenser. Pas ou pas sur l'or, c'est vrai, mais excusez la fierté. On a été soldats. J'ai ma médaille du Tonkin là dans le tiroir. Et on ne veut manger que le pain qu'on gagne. Soit, reprend le financier, mais voyons, un brave homme comme vous, un ancien militaire, vous me paraissez capable de mieux faire que de pousser une charrette à bras. On s'occupera de vous, soyez tranquille. Mais l'estropié se contente de répondre froidement, avec un sourire triste qui révèle bien des déceptions, tout un passé de découragement. « Enfin, si monsieur veut bien songer à moi. » Quelle surprise pour les loups cerviers de la Bourse et les intrigants du Palais Bourbon, s'ils pouvaient savoir. Voilà que monsieur Godefroy est désolé à présent de la méfiance de ce pauvre diable. Attendez un peu. Il saura bien lui faire apprendre à ne pas douter de sa reconnaissance. Il y a de bonnes places de surveillants et de garçons de caisse au comptoir. Qu'est-ce que vous direz, monsieur le sceptique, quand vous aurez un bel habit de drap gris-bleu, avec votre médaille du Tonkin à côté de la plaque d'argent? Et ce sera fait dès demain, n'ayez pas peur. Et c'est vous qui serez bien attrapé. Isidore, s'écrie M. Godefroy avec plus de chaleur que s'il s'agissait de faire un bon coup sur les valeurs à turban. Vous permettez bien que je m'occupe un peu de Isidore. Ah, pour ça, oui, répond joyeusement Pierrot. Souvent, quand je songe que ce pauvre petit n'a que moi au monde, je me dis, quel dommage, car il est plein de moyens, les maîtres sont enchantés de lui à l'école primaire. Mais Pierrot s'interrompt brusquement, et dans son regard de franchise, M. Godefroy lit encore et très clairement cette arrière-pensée. Pouf, c'est trop beau tout ça, le bourgeois nous oubliera une fois le dos tourné. « Maintenant, dit le manchot, oh, je crois que nous n'avons plus qu'à transporter votre gamin dans la voiture, car vous devez bien vous dire qu'il sera mieux chez vous qu'ici. Bon, vous n'avez qu'à le prendre dans vos bras, il ne se ravira même pas. On dort si bien à cet âge-là. Oh, seulement, il faudrait d'abord lui remettre ses souliers. » Et, suivant le regard du marchand des quatre saisons, M. Godefroy aperçoit, devant le foyer où se meurt un petit feu de coq, deux paires de chaussures enfantines, les fines bottines de Raoul et les souliers à clous de Isidore. Et chacune des paires de chaussures contient un pantin de 2 sous et un cornet de bonbons de chez l'épicier. « Ne faites pas attention, monsieur, » murmure alors Pierrot d'une voix presque honteuse. « C'est Isidore, avant de se jeter sur le lit, qui a mis là ses souliers et ceux de votre fils. À la laïque, on a beau leur dire que c'est de la blague, les enfants croient encore à la Noël. Alors moi, en revenant de chez le commissaire, comme je ne savais pas après tout si votre gamin ne passerait pas la nuit dans ma turde, j'ai acheté ces bêtises-là, vous comprenez ? Pour que les gosses à leur réveil. Ah, c'est à présent que les bras leur tomberaient aux députés qui ont vu si souvent M. Godefroy voter pour la libre pensée. Au fond, ils s'en moquaient pas mal, mais la réélection. C'est à présent qu'ils jetteraient leur langue au chat, tous les messieurs durs et secs qui siégeait avec M. Godefroy autour des tables vertes et qu'il admirait comme un maître pour sa sécheresse et pour sa dureté. Est-ce que par hasard ce serait aujourd'hui la fin du monde? Monsieur Godefroy a les yeux pleins de larmes. Tout à coup, il s'élance hors de la baraque, y rentre au bout d'une minute, les bras chargés du superbe cheval mécanique, de la grosse boîte de soldats de plomb, des autres jouets magnifiques achetés par lui dans l'après-midi et restés dans sa voiture. Et devant Pierrot, stupéfait, il dépose son fardeau doré et verni auprès des petits souliers. Puis, saisissant la main du manchot dans les siennes, et d'une voix que l'émotion fait trembler, « Mon ami, mon cher ami, dit-il au marchand des quatre saisons, voici les cadeaux que Noël apportait à mon petit Raoul. Je veux qu'il les trouve ici en se réveillant et qu'il les partage avec Zidore, qui sera désormais son camarade. Maintenant, vous me croyez, n'est-ce pas? Je me charge de vous et du gamin. Je reste encore votre obligé, car vous ne m'avez pas seulement aidé à retrouver mon fils perdu. Vous m'avez aussi rappelé qu'il y avait des pauvres gens, à moi, mauvais riches, qui vivaient sans y songer. Mais je le jure par les deux enfants endormis, je n'oublierai plus désormais. » Tel est le miracle, messieurs et mesdames, accompli le 24 décembre dernier à Paris, en plein égoïsme moderne. Il est très invraisemblable, j'en conviens, et en dépit des anciens votes anticléricaux de M. Godefroy et de l'éducation purement laïque reçue par Zidore à l'école primaire, je suis bien forcé d'attribuer cet événement merveilleux à la grâce de l'enfant divin venu au monde il y a près de 1900 ans pour ordonner aux hommes de s'aimer les uns les autres.